Alors aujourd'hui, comme je vous l'ai annoncé, c'est un culte spécial. Voilà. Alors, culte spécial, c'est un culte de famille. Parce que Jésus est ressuscité, mais il n'est pas ressuscité simplement que pour papy, mamie, papa, maman. Il est ressuscité pour tous les hommes. Et parmi tous les hommes, il y a aussi les petits-enfants. Un jour, les disciples ont dit à des enfants qui étaient là, vous savez comment ça se passe, ces enfants, hein, quand il y a quelqu'un qui est là, comme la personne de Jésus, eh bien, les enfants étaient autour de Jésus, ils voulaient toucher Jésus. Jésus, dans les bras, dans les bras. Enfin, je ne sais pas s'ils ont dit ça, mais enfin, on peut imaginer. Jésus, fais-moi un bisou, un bisou. Alors Jésus, j'imagine Jésus, ce que je dis, ce n'est pas écrit, hein, sauf que Jésus était entouré d'enfants. Certainement que Jésus, il faisait comme ça, « Oh mon gel dans les cheveux, Jésus a touché. Oh. » Ça, c'est les ados plutôt. Hein. Mais Jésus, peut-être, il prenait les enfants comme ça dans les bras, et puis à un moment donné, les disciples ont dit, « Oh, 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 bon allez, hé, hey, les mioches là, allez, petit, allez, du vent, allez, une vraie volée de moineaux, allez, partez !» Et Jésus va reprendre les grands. Laissez les petits enfants venir à moi. Il y a toute une image derrière ça. Parce qu'un petit enfant raisonne différemment d'un adulte. Vous vous souvenez quand vous étiez tout petit? Moi, je me rappelle comment j'étais. J'étais dans le jardin, dans ma Normandie. La maison était derrière moi, puis je levais les yeux au ciel dans le jardin. Puis je parlais à Dieu. Je ne le connaissais pas comme je le connais aujourd'hui. Parce qu'à l'époque, je voulais devenir moine. Alors je levais mes yeux au ciel. Puis je priais le Seigneur avec mes mots. Et Dieu entendait ma prière. Et il m'a gardé. Il m'a tellement gardé que je ne dis pas ça pour faire genre. Mais c'est vraiment par la grâce de Dieu que je suis ce que je suis aujourd'hui. En dehors du côté pastoral, hein, dans ma personne. C'est vraiment Dieu qui a gardé, qui m'a gardé. Alors, c'est pour ça que Jésus, il écoute la prière aussi des tout-petits. Des tout-petits. Même quand on se sent insignifiant. Parce qu'on se dit, c'est papa et maman, on va à l'église de papa et maman. Non, non, non. C'est l'Église qui reçoit Jésus. Alors, je vais faire venir les... Je me suis dit, je vais dire les petits, mais en même temps... Enfin, je viens de le dire, vous me direz. Mais en même temps, ça me gêne. Alors, je ne vais pas dire les petits. Je vais dire simplement les néons. Vous savez que les écoles du dimanche sont divisées par groupes d'âge. Et je vais demander aux néons de monter sur l'estrade. Et vous restez ici, tous les néons. Là, vous restez là, sur la plateforme. Ah, il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Toi, t'es pas un néon, toi. Toi non plus. 8. Mais c'est les monos. Alors, les néons, tout le monde vous regarde. Vous avez une mission. Les clés, vous n'en tenez pas compte des clés. Vous devez retrouver sur l'estrade tous les objets qui nous parlent de Pâques. Tous les objets. Alors, vous ne précipitez pas, ce n'est pas la peine de courir. Il faut que tout le monde puisse participer. Alors, au top départ, vous êtes prêts les parents, là, les grands-parents? Vous êtes prêts à leur donner le top départ? Partez. Ah ben, heureusement que j'ai dit qu'il ne fallait pas courir. Tous les objets qui nous parlent de Pâques. Et vous les gardez avec vous. Allez chercher. Parce qu'ils ont été cachés. Ouvrez bien les yeux. Ah ah. Alors, ben voilà. Ça y est, vous avez fait le tour ou pas? Et le poupon, là, je vois qu'il y a un livre avec un petit âne dessus, un petit poupon. Est-ce que ça vous parle de Pâques, ça? Puis là-bas, il y a un hippopotame avec son bébé, avec un chapeau dessus. Ça vous parle, ça, de Pâques? Non? Non? Bon, c'est bien. Alors, qu'est-ce que vous avez pris? Qu'est-ce que vous avez trouvé comme objet? Qui nous parle de Pâques? Alors, comment c'est ton prénom déjà? Rappelle-moi. Hein? Marceau, qu'est-ce qu'il a trouvé, Marceau? C'est quoi?
Du chocolat.
Oui, mais du chocolat, mais ça représente quoi?
Un poisson.
Un poisson. Le poisson. Après, qu'est-ce que t'as trouvé, toi, Minou? Oh là, mais t'en as pris beaucoup. Attends, on va en donner un. On va donner un. Tiens, Minou, que les uns et les autres puissent participer. Qu'est-ce que t'as trouvé? Ça, c'est quoi?
Une maison.
Non.
Une brioche.
Non, pas une brioche non plus. Si jeune et déjà être sourd. Une cloche.
Une cloche.
Une cloche. Et?
Un œuf.
Et un œuf. Après, qu'est-ce que tu as trouvé?
Lapin.
Un lapin. Après, qu'est-ce que tu as trouvé?
Des œufs.
Ouh, regardez un peu. Mais non, ils sont faux. Tiens, attrape. Qu'est-ce que tu as trouvé, toi, Minette?
Un petit œuf.
Et toi?
Un œuf.
Un œuf. Et un petit œuf. Un petit œuf. Un petit œuf. Et après, là, qu'est-ce que tu as trouvé, Minou? Evan, qu'est-ce que tu as trouvé? C'est quoi ça?
Une poule.
Une poule. Alors, donne. Il va la garder pour lui. Et voilà. Et. Qu'est-ce que. Viens là, Minette. Attention au câble. Rihanna, qu'est-ce que tu as trouvé?
Un agneau.
Un agneau. Ah! Allez, vous pouvez prendre place, les petits. Vous descendez. Vous pouvez descendre. Voilà. Ah, bravo. Stéphane, il a trouvé un Kinder. Pour ne pas faire de pub. Alors, on a trouvé un poisson. Et les grands? Tous les ans, vous avez le droit à ça dans les supermarchés, chez les pâtissiers, les chocolatiers. Alors, le chocolatier, c'est les spécialistes, hein, forcément, puisque ça porte le nom de chocolatier. Est-ce que vous savez d'où viennent ces traditions? Qu'est-ce que ça représente? Alors, on va commencer par l'œuf. L'œuf et la poule. Alors, l'œuf et la poule, ça, c'est pour notre instruction, hein, bien sûr, rapidement. L'œuf et la poule. Ou la poule ou l'œuf. Alors, la tradition, ce ne sont que des traditions. Ça vaut ce que ça vaut. Mais symbolique quand même. Alors, les œufs, avec la poule, chez les catholiques, il y avait le carême. Et le carême constitue en fait à faire un temps de jeûne, voire d'abstinence, de plusieurs choses. Et, entre autres, eh bien, ils ne devaient pas consommer les œufs. Et à la fin du carême, pour Pâques, il y avait une quantité importante d'œufs, puisque les poules, elles, ne faisaient pas les jours fériés. Donc, elles continuaient à donner des œufs. Alors, rapidement, lorsqu'on arrivait à Pâques, il fallait manger les œufs que les poules avaient pondus. Et puis, au XVe siècle, les œufs sont peints à la main. Et peut-être que dans des reportages de télévision, vous avez vu ça, ce sont des objets d'art pour certains. Et à compter du XVIIe siècle, les châtelains, ceux qui s'occupaient du château, non pas les rois, mais ceux qui avaient la responsabilité de la mise en œuvre eh bien, de tout ce qui se passait dans le château, s'offraient des œufs ornés de joyaux qui souvent renfermaient une surprise. Et puis les œufs se sont transformés par la suite en œufs de chocolat. Et puis après, on a le lapin. Alors souvent on dit le lapin, mais en fait l'histoire n'est pas un lapin, c'est un lièvre. On l'a appelé le lapin et ça vient d'Allemagne. En fait, c'était une maman qui n'avait pas les moyens d'offrir des confiseries à ses enfants, avait trouvé l'idée de se servir d'œufs qu'elle a placés eh bien, dans le jardin. Et puis, les enfants, en allant récupérer les œufs, ont aperçu à un moment donné un lièvre. Et dans la tradition, ils se sont dit, eh bien, c'est le lièvre qui a pondu des œufs. Du coup, eh bien, on a fait le symbole du lièvre. Enfin, c'est plus un lièvre qu'un lapin, en vérité. Voilà. Et en fait, le lapin, ou le lièvre, représente, eh bien, la fertilité, mais aussi symbolise la période, la saison du printemps. Et puis voilà qu'on a les cloches. Alors la cloche, c'est de tradition catholique, bien sûr, mais du jeudi au samedi, les cloches dans les villes et dans les villages, c'était tu. On ne les entendait pas. Et le dimanche matin, le jour de Pâques, et ça sonnait de partout. Et on disait, en fait, pourquoi ça sonnait le dimanche matin de Pâques ? Eh bien, pour fêter la résurrection de Jésus. Et d'ailleurs, j'ouvre une petite parenthèse, dès qu'il y a des événements très particuliers, en France, je ne sais pas si ça se fait ailleurs, en France, les cloches tintent de tous leurs sons, de tous leurs... toute leur puissance quand il y a des événements particuliers, et c'était entre autres aussi pendant la Seconde Guerre mondiale, ou quand il y a eu la libération, eh bien, on a fait sonner la joie. Et donc la cloche symbole eh bien, aussi la joie, rappel à la résurrection de Christ. Et selon la légende, les cloches partent de Rome. Afin d'être rechargées d'œufs. Et pendant leur voyage, elles laissent tomber les œufs dans les jardins pour que les enfants puissent eh bien, se servir. Et puis l'avant-dernier, le poisson. Mais il n'y a pas que les poissons. Vous avez déjà vu dans les commerces des poissons, des crustacés, des coquillages. En fait, ça. Alors là, c'est. Là, c'est quand même, ça prend tout son sens. Ça nous parle tout simplement eh bien, de la multiplication des pains et des poissons. La pêche miraculeuse aussi. Plutôt la pêche miraculeuse, pardon. La pêche miraculeuse. Et donc, c'est en relation directe avec l'Évangile. Et puis, le tout dernier, peu cher, on le passe en dernier. En fait, c'est lui qui est tout le symbole. L'agneau. Cet agneau nous parle de qui ? Les petits, vous le saviez, ça ? Ah, il y en a un derrière moi. Et voilà. Regardez cette belle représentation, cette belle photo. Et cet agneau, donc, nous parle encore plus directement que les poissons, même si c'est une belle image, les poissons, les crustacés. Nous parle, enfin, plutôt le poisson que les crustacés, d'ailleurs. Nous parle eh bien, de la personne de Jésus. En fait, ces histoires ont tout un sens. Ce sont des représentations. Et comme bien d'autres fêtes religieuses chrétiennes, en fait, on s'arrête beaucoup sur le chocolat, beaucoup sur le fait de voir les enfants courir, gambader dans les jardins, à la recherche des chocolats, et les cœurs des parents et des grands-parents sont émus de voir leurs petits chercher. Et quand ils deviennent plus grands, bon, c'est pas pareil, mais ils aiment bien le chocolat quand même. Mais la fête de Pâques nous parle, en réalité, de quelque chose qui est bien plus profond que simplement le goût du chocolat. Ça nous parle de la mort de Jésus. Mais Pâques nous parle non seulement de sa mort, mais de sa résurrection. C'est pour ça que le peuple de Dieu est heureux. Non pas de la mort de Jésus, quoique, sans la mort de Jésus, nous ne pourrions pas être sauvés, puisque la Bible dit « sans effusion de sang, point de pardon ». Mais la vie, les disciples étaient tristes de voir Jésus mort sur la croix. Pour eux, ils se disaient, ça y est, tout est fini, tout est terminé. Ça vous est arrivé, les petits, d'emmener quelqu'un à la gare ? Un tonton, une tati, un grand-père, une grand-mère, Et ils prennent le train, le TGV, on dit. On est triste parce qu'on a passé du bon temps avec eux. Et puis, à un moment donné, on se dit, mais alors on sait qu'on va les revoir. Donc, on se console en disant, on va les revoir. Mais là, Jésus, il était mort sur la croix. Et malheureusement, on sait ce que c'est que la mort. On ne revoit pas les gens. Sauf, comme ça a été chanté tout à l'heure, Dieu est le Dieu de l'impossible. Et Dieu a donné la vie à son cher fils Jésus pour qu'il revienne à la vie. Et avant de mourir, Jésus a pu dire quelque chose d'important, la raison pour laquelle il était venu sur terre, tout est accompli. Alors on retrouve un passage dans le livre de la Genèse qui nous parle eh bien, de la mort. C'est Abraham qui va être interpellé par Dieu et Dieu va lui demander quelque chose qui, de son cœur, était impossible aux yeux des hommes. Mais parce que Abraham croyait que Dieu était le Dieu de l'impossible et que Dieu pouvait redonner la vie, Dieu va lui demander quelque chose de douloureux, de difficile. Il va dire, « Donne-moi ton fils. » Quelque chose d'horrible. Et Abraham va prendre son petit, Isaac, il va l'emmener, et sur l'autel du sacrifice, Abraham, avec le poignard, va lever le poignard. Et à un moment donné, Dieu va dire, en quelque mot, « Stop ! Arrête ! Maintenant, je sais. » Et je vais le dire avec mes mots à moi, ce n'est pas écrit ce que je veux dire. Je sais que lorsque tu pries, que tu es sincère, que parfois tu as des hauts, que parfois tu as des bas, qu'il t'est arrivé parfois même de chuter. Mais je connais la sincérité de ton cœur, je sais combien tu es vrai quand tu me pries. Je sais que c'est de l'abondance de ton cœur que tu as accepté de vouloir donner presque ton fils. Alors que c'est moi qui t'ai arrêté. Et voyez-vous, Abraham, eh bien, était prêt à le faire, mais Dieu va lui dire, arrête. Arrête pourquoi ? Parce qu'en fait, Dieu n'a jamais demandé d'avoir sacrifié un être humain. La seule personne qui était sacrifiée, c'était Jésus sur la croix. Jésus est mort sur la croix pour donner sa vie pour chacun d'entre nous. Et Abraham, eh bien, au lieu de continuer à baisser son poignard sur son fils, Dieu va l'arrêter et Dieu va lui dire, Abraham va voir, c'est au verset 14, au chapitre 2 de la Genèse, Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cordes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Ça, c'était une image pour dire ce qui allait se passer. C'était prophétique. Ce qui allait se passer dans l'avenir. Et voilà qu'on arrive eh bien, dans le Nouveau Testament. Et là, dans le Nouveau Testament, il y a un homme que l'on appelle Jean-Baptiste, un homme qui est consacré à Dieu. Un homme qui a une vie un peu spéciale. Je ne sais pas si vous aimeriez tous avoir sa vie. Il était habillé en Zara, costume Zara, avec des chaussures en cuir, et puis il avait une belle cravate ou un benoît papillon. Et puis il disait, oh venez vous tous, non, il avait une vie spéciale. La Bible nous dit qu'il avait une tenue de bête, une ceinture de cuir, et il allait manger au McDo. Bon, quick, si vous voulez. Non ? KFC, c'est pas ça ? Il allait manger quoi ? Il mangeait quoi ? Des frites ? Non ? Des sauterelles et du miel. Et qu'est-ce qu'il annonçait, Jean-Baptiste ? Jean-Baptiste n'est pas là pour se faire remarquer, pour avoir une vie un peu spéciale, non. Jean-Baptiste était un homme qui croyait en Dieu. et qui attendait quelque chose. En fait, il n'attendait pas quelque chose. Il attendait quelqu'un. Il attendait le Messie. Et le Messie, il va le voir arriver. Et il va dire, dans Jean 1, Jean 1, 29, mais avant. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui, donc au bord du Jourdain, et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Les moniteurs et les plus grands, vous avez l'habitude de lire la Bible, ou vous apprenez à lire la Bible pour les plus petits. Et dans la Bible, il y a toute une liste d'hommes, de femmes, qui ont eu besoin d'être pardonnés de leurs péchés. En fait, la Bible parle de tous les hommes qui ont besoin de pardon de Jésus. Et parfois, on peut dire quand même, moi, je suis pas mal. Je suis gentil, je fais ce qu'on me demande. Mais même si on fait ce qu'on nous demande, si on est obéissant aux parents, la Bible déclare que nous sommes pécheurs et que nous avons besoin de l'agneau de Dieu. Et je vais vous lire une liste de noms de personnes qui ont marqué l'histoire dans la Bible. Et on pourrait dire vraiment, ce sont des hommes, des femmes remarquables, mais qui ont eu besoin du pardon de Jésus. Il y a Paul. Paul qui était un meurtrier. Il y a eu Noé qui a été un homme ivre. Il avait trop bu. Jonas qui a fui. Moïse était bègue. Abraham était âgé. Rahab était prostituée. Lazare était mort. David a été infidèle. Zachée était de petite taille, pensant que Dieu n'avait peut-être pas grand-chose à lui accorder. Marthe a été nerveuse, pour ne pas dire en colère un peu. Jacob a triché. Gédéon manquait de courage. Sarah était impatiente. Vite, tout de suite, tout de suite. Élie était dépressif. Myriam a été médisante. Thomas a douté. Et Pierre était colérique. Est-ce que vous vous retrouvez là-dedans? Il y en a qui se sont comme Pierre. Chut. Peut-être qu'il y en a qui sont comme Jacob. Tricheur. Peut-être qu'il y en a qui sont comme Marthe. Impatiente, nerveuse. Peut-être qu'il y en a qui sont comme David. Infidèle. Pas dans l'infidélité de adultère. Mais dire, je promets que je vais faire ça. Oh, j'ai pas envie de le faire. Peut-être qu'il y en a qui se sentent incapables parce qu'ils sont à l'image de Moïse, bègue. Le Seigneur peut entendre ma prière? Dieu entend ta prière. La preuve en est, c'est que Dieu s'est servi de Moïse. Alors qu'il avait des incapacités, Dieu l'a rendu capable. Peut-être que vous êtes à l'image de Noé, ivre. Ivre, pas forcément d'alcool, mais ivre de choses qui... Vous êtes dans l'ivresse de la colère, dans l'ivresse de bien des choses qui peuvent vous faire tourner la tête. Ou peut-être que vous êtes comme Zachée. Vous vous sentez trop petit pour que Dieu entende votre prière. Vous voyez, tous ces hommes, toutes ces femmes, ont eu besoin de Jésus dans leur vie. Ils ont eu besoin de Jésus dans leur vie et dans Ésaïe 53, au verset 1. Ésaïe 53, verset 1. Voilà un petit peu l'histoire de la vie de Jésus. C'était annoncé avant qu'il ne vienne. C'est ce qu'on appelle une prophétie. Mais en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, on aurait pu croiser Jésus à la boulangerie, basket, jean, habillé décemment. Et puis nous regarder. Il dort bien. Qui c'est ce gars-là qui m'appelle? Et on se connaît? Toi, non. Mais moi, oui. Mais alors, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu veux me parler à moi? Personne ne me parle! Parce que moi, je suis la terreur dans mon quartier. Qu'est-ce que t'as? T'en veux une? Et d'entendre Jésus lui dire, je t'aime. Et je connais toute ta vie. Et de voir ce gars comme ce sol de Tarse fondre, non pas par de la psychologie, mais fondre son cœur, devenir tout doux, tout tendre. Et de dire, enfin, il y a quelqu'un qui me comprend. Enfin, il y a quelqu'un qui me voit. Pas comme je voudrais montrer aux uns et aux autres, tout le monde a peur de moi parce que je fais la terreur. Mais lui me voit différemment. Et puis il y a cette fille, mini-jupe, mais vraiment mini-jupe, hein. Et tous les gars la regardent, plein de gars la regardent. Oh la fille! Mais il la regarde, vous savez, avec de mauvaises intentions. Elle joue de ça pour se montrer. Mais elle n'a pas forcément de mauvaises intentions. Elle se dit, c'est pour plaire, je veux que les gens me regardent. Je veux qu'on dise que je suis belle, mais sans arrière-pensée. Je veux juste qu'on dise que je suis belle. Parce que ma vie, elle est moche. Parce que ma vie est pleine de traces, pleine de coups. Mais en fait, à travers son habillement, elle ne fait que nourrir son mal-être. Et voilà, il y a encore cet homme en jean avec des baskets qui s'approche d'elle. En fait, il l'attend. Il l'attend. Il l'attend. Il y a cette même histoire dans l'abîme. Et Jésus va dire à cette fille, tu sais que je te connais. Tu connais l'histoire de Dieu, tu connais Dieu. Oh, oui, j'étais à l'école du dimanche. Je me rappelle que ma grand-mère me parlait de Dieu, on priait, oui, je m'en souviens. Je me souviens que mon grand-père disait, avant de manger, on va rendre grâce. Il disait, mais moi, vous savez, Dieu, ma vie est partie en biberine. T'as eu plusieurs maris. Oui, j'ai eu plusieurs maris. Et on m'a dit, on fait dire, même les pasteurs, parfois, ont dit que j'étais une drôle de femme. Parce qu'en fait, j'ai eu 5 maris. Et les pasteurs, même, ont dit de moi que j'étais une femme peu fréquentable. Et d'ailleurs, j'ai même plus d'amis, j'ai pas d'amis. J'ai plus de copines, j'ai plus de copains, parce que personne ne veut me voir, parce que j'ai ma réputation. Et Jésus va dire à cette femme, va chercher ton mari. Mais j'en ai pas, c'est vrai, tu n'en as pas. C'est le 6e. Et tu n'en as pas parce qu'en fait, tu t'es jamais marié. Parce que tu as peur. Tu as peur de vivre encore l'échec. Et cette femme va se rendre compte d'une chose, c'est que Jésus ne regarde pas cette femme comme les autres l'ont regardée. Et que Jésus ne s'intéresse pas du tout à cette femme par rapport à sa tenue vestimentaire. Mais il s'intéresse à quelque chose de bien plus grand, bien plus profond, son cœur. Cette femme va être bouleversée, touchée. Elle habite à Fonsarabe. Vous la connaissez ? C'est celle qui est seule dans sa vie, en mini-jupe. Depuis qu'elle a rencontré Jésus, elle ne cherche plus à attirer le regard des hommes et des autres. « Regardez-moi, regardez-moi, je suis belle ! Dites-moi que je suis belle !» Elle ne cherche plus ça, elle habite à Fonsarabe. Vous connaissez Fonsarabe ? À Martigues ou à Port-de-Bouc, peu importe où elle habite. Et maintenant, elle va dans les rues en disant « Je sais que tu es vivant. Je sais que Jésus a pardonné mes péchés. Que l'agneau de Dieu a donné sa vie et qu'il a changé mon cœur. Je ne cherche plus le regard des hommes, des femmes, de ce qu'on va dire de bien de moi. Je sais que Jésus dit quelque chose de bon de moi parce que je suis sa fille. » Et que ma vie passée, c'est passé, que tout est devenu nouveau. Oui, c'est ma vie. Oui, j'ai un passé. Mais je sais que Jésus a changé ma vie parce qu'il est ressuscité. J'aimerais vous raconter une petite histoire. Si un jour vous allez en Allemagne, dans le village de Werden, dans le Ruhr, vous verrez sur l'église, sur le faîte du toit de l'église. Le faîte, c'est la ligne qui joint entre les deux versants, droite et gauche, de la toiture. Vous verrez un agneau sculpté, un agneau en pierre sculpté. C'est bizarre de voir un agneau sur le toit de l'église. Sans ornement, il n'y a pas de décoration, il n'y a que l'agneau. C'est rigolo, non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est bizarre, ça ne vous intrigue pas ? Les grands, vous n'êtes pas étonnés de ça ? Vous voulez connaître l'histoire ? Pourquoi il y a un agneau ? Eh bien, lorsqu'on a construit l'église, il y avait un couvreur. Le couvreur, c'est celui qui met les tuiles pour faire le toit. Il y avait un couvreur. Et qui, à un moment donné, pendant qu'il était en train de travailler sur l'eau de l'église, sur la toiture, il a été déséquilibré par le câble qui tenait son sac de tuiles. Et voilà ! Pas par terre ! Il est tombé du haut de l'église. Mais il y avait quelqu'un en bas. Il y avait un mouton. C'était une histoire vraie. Hein. Et l'homme est tombé sur le mouton. Oh ! Et certainement qu'il a dû faire... J'ai rien cassé, ça va ? Oh ! Le mouton. Il est mort. À cause de moi. À cause de ma chute. Le mouton est mort parce que je suis tombé sur lui. Il a pris sur lui le poids de ma vie. Alors, pour être reconnaissant, il a fait faire cet agneau qu'il a fait mettre sur le faîte de l'église. Voilà pourquoi il y a cet agneau en pierre, pour se souvenir qu'un jour, un mouton, un agneau, a protégé sa vie. L'agneau est toujours vivant. Il est tellement toujours vivant qu'il est vivant pour l'éternité. Cet agneau, il se propose de sauver ta vie. Au-delà du chocolat, au-delà de la confiserie, bien sûr, on est content. Nous ne sommes pas des gourmands, nous sommes des gourmets. Ça passe mieux en le disant comme ça. Eh bien, au-delà des chocolats, de la joie de voir ses enfants chercher, rappelez-vous les petits et les grands, Rappelons-nous qu'un jour l'agneau a donné sa vie pour chacun d'entre nous.